pour que vous puissiez nous éclairer au niveau philosophique et théologique. On ne pourra pas poser toutes les questions parce qu'il y a une trentaine, dont on essaiera de poser quelques-unes. La première question qu'on voudrait vous poser est la suivante. Peut-on discerner philosophiquement la nécessité du mariage entre l'homme et la femme? Pourquoi ne pas s'en tenir à une amitié entre le même et le même, qui, dans le cas d'une amitié philosophique, peut aboutir à une communion profonde dans la contemplation de la vérité? Qu'est-ce qu'un regard de sagesse philosophique nous dit-il de la personne masculine et féminine?
Oui, le fondement naturel, c'est ça que vous m'en demandez, le fondement naturel par rapport au mariage.
Tout à fait, Père.
C'est sûr que, en tant que chrétien, c'est le fondement le plus naturel. Le plus profond. La destruction du mariage est une atteinte directe à Dieu le Père. Je crois que ça, il faut que nous comprenions. Parce que c'est pratiquement un des signes que l'homme se révolte radicalement contre Dieu. Donc, Dieu devant ça, il y a une seule solution, c'est la fin du monde.
C'est l'épisode de Sodome et Gomorrhe.
Oui. Sodome et Gomorrhe sont par rapport au péché, mais l'attaque actuelle est plus sérieuse encore que ça. L'attaque actuellement, c'est de supprimer pratiquement le point de vue de l'union de l'homme et de la femme comme le fondement de la société. Et Dieu l'avait créé comme fondement de la société. Donc il faut voir que cette attaque est l'attaque la plus radicale. Il suffit de lire la Bible, d'ouvrir la Bible, Dieu créa l'homme et la femme. Donc on est en face de... D'une révolte de l'humanité contre Dieu comme législateur. Et législateur, cette législation a de plus profond. Jusque-là, il y avait des fautes entre le mariage, c'était différent, mais on l'acceptait. Tandis que maintenant, devant ça, ça fait depuis 10 ans. Depuis 10 ans, au fond, le démon prend une attaque directe. Parce que c'est le démon qui fait ça. Hein. Bon, c'est pas l'homme. Il est trop bête. Mais c'est le démon qui attaque directement le point de vue de l'homme dans ce qu'il a de radical. De sorte que pour moi, c'est un signe que ça ne peut pas durer, comme c'est maintenant. Ou Dieu agira d'une façon magistrale, comme il a agi dans l'Ancien Testament, quelquefois, ou il dira, mais vous devenez ingouvernable. Parce qu'on touche à l'aspect fondamental du Créateur par rapport à l'homme et la femme, par rapport à l'espèce humaine. une révolte contre la nature. C'est ça, je crois, la gravité au point de vue philosophique. Et si on ne ressent pas ça, ça prouve qu'on n'a pas senti avec suffisamment de pénétration que le premier commandement sur lequel tout reposait, c'est le point de vue de l'union de l'homme et de la femme. Bon, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a ensuite, alors, sur ce point de vue-là, se greffe des questions secondes, entre autres l'homosexualité. Je dis seconde, pas du tout seconde au point de vue moral, c'est évident, mais au point de vue gravité de la faute. Je crois que la gravité foncière de la faute, c'est le refus de la nature. Oui. Refus de la nature telle qu'elle est.
Mon père, est-ce que ce refus de la nature ne vient pas explicitement du refus de Dieu? Parce que dans l'Écriture, lorsqu'on lit l'Épître aux Romains, ou lorsqu'on lit le livre de la Genèse, ou de la Sagesse, qui traite de cette question-là, on a toujours ce balancement entre le refus de Dieu et tout ce qui est contraire à la nature humaine. On a comme l'impression qu'à chaque fois que l'homme se détourne de Dieu, et dans le paganisme, l'incidence immédiate, c'est par rapport à la nature.
Mais c'est très juste de dire ça, mais il faut regarder la faute elle-même. Oui.
La faute au niveau personnel.
La faute au point de nature. Oui. Ce que vous me donnez là comme explication, c'est déjà une explication théologique, n'est-ce pas ? Elle n'est pas philosophique, elle est théologique. Je crois que nous devons nous regarder au plan de vue philosophique en premier lieu la gravité de cette faute, qu'on touche à quelque chose de fondamental par rapport à la création de l'homme et de la femme. Voilà. Et c'est, pour moi, c'est ça qu'on doit voir, qu'on doit sentir dans une vision de sagesse. C'est directement la sagesse du Dieu créateur qui est attaquée.
Mon père, si vous permettez, je vais lire simplement un petit passage de ce texte de loi. Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ou auront provoqué à l'égard des mêmes personnes aux discriminations prévues par la loi. La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle. Il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement. Il y a un frère qui pose cette question. Quelle doit être l'attitude d'un chrétien dans un pays qui vote des lois légitimant l'infamie? Confère Romains 1, 27. Les péchés, et en qualifiant de délit le fait de témoigner de la vérité sur l'homme et sa vocation surnaturelle et naturelle. Quelle attitude devons-nous adopter ? Rébellion ? Objection de conscience ? Ou alors soumission ?
Alors, distinguons d'abord l'attitude personnelle de chacun face de Dieu. Il est évident que si on a le sens de Dieu, on respecte ce que Dieu a fait. Donc, on respecte la distinction de Dieu, de l'homme et de la femme, et de la fondation d'un foyer. Donc, au point de vue moral, personnel, on doit voir la gravité de cette faute, c'est que l'homme prend la place de Dieu, puisque l'homme ne respecte plus la nature. Au fond, vous voyez, comme c'est grave de fausser la conscience, de considérer que la loi est supérieure à la nature. Ouais, c'est ça qui me semble le plus grave. Parce que c'est fausser complètement la conscience. Alors, on va devenir des gens... La moralité repose sur la nature des gens sans morale. On est en train de construire un monde sans morale. Et on attaque comme ça quelque chose très directement sans morale. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est en sens ça que je dis que c'est démoniaque. Ça va beaucoup plus loin que la loi. Et quand la loi s'occupe d'un domaine qui relève de Dieu et non pas d'elle, la loi prend la place de Dieu. Et quand la loi prend la place de Dieu, la loi prend la place de la dans notre conscience, dans notre formation, une place qu'elle n'a pas le droit. Je suis soumis à Dieu avant d'être soumis à l'État. Ça, c'est la première distinction que nous devons maintenir, parce que nous revenons au fond à quelque chose d'analogue des premières persécutions contre les chrétiens qui devaient adorer les faux dieux. Alors, ce n'est plus à l'égard de Dieu, c'est à l'égard de l'homme. Et ça revient exactement à ça. Devons respecter l'homme, non pas parce qu'il a la nature humaine et que son âme est créée par Dieu, mais à cause de la loi. Donc on défie la... On oriente faussement et on forme faussement la conscience des gens. Le respect de la nature est quelque chose de plus fondamental que le respect de la loi. La loi vient des hommes et la nature vient de Dieu. Alors, je crois que c'est ça qu'on doit d'abord rappeler pour ne pas tomber dans le panneau.
Bon, après, une question qui va dans ce sens-là. La loi sur l'homophobie pose en clair la question de la place de la loi dans les rapports entre philosophie éthique et la philosophie politique. N'assistons-nous pas à une tentative progressive voulant substituer le choix prudentiel qui respecte la nature assumée par la personne par une recherche d'originalité à l'encontre nature ? En émoussant le sens moral des personnes, ne voudrait-on pas remplacer la conscience personnelle au sens fort du terme par une norme collective.
Oui, politique. Disons politique, collectif, politique. C'est l'État qui remplace Dieu. Alors, vous voyez, on dit, mes petits amis, supprimez Dieu, vous serez libres. Attention, l'État prendra la place de Dieu. Et c'est ça qu'il faut montrer aux gens. Et que l'État, prenant la place de Dieu, nous serons tous ficelés d'une façon autrement plus sévère par l'État. Parce que l'État n'a aucune miséricorde. Ça, c'est très net. Autrement dit, c'est l'idéologie philosophique qui veut exalter l'aspect politique. Et la politique, considérée politique à la place de Dieu. C'est dit ouvertement, quoi. Et c'est ça, je crois, qu'on doit sentir comme danger. Parce que petit à petit, on se laisse contaminer. Et petit à petit, des gens... Au point de départ, c'est évident, l'État n'est pas l'État, l'État c'est fait par les hommes, arrive à affirmer ça.
Après une question beaucoup plus en philosophie, pour aborder la question de l'homosexualité, le point de vue de la nature et de la loi naturelle est difficile à prendre aujourd'hui. Il y a des réticences fortes à ce sujet-là. Ne faut-il pas aborder la question selon la philosophie de la personne humaine et comment ? Est-ce en considérant le corps comme dimension de la personne humaine ? Une autre question qui va à peu près dans le même sens, même si on parle du magistère. Le magistère de l'Église parle de vocation de la femme. Cela semble vouloir dire que la distinction homme-femme n'est pas seulement sur le plan de la nature, mais aussi de la personne, puisque la vocation est toujours personnelle. Que peut-on dire de la distinction homme-femme et de leur complémentarité en métaphysique de la personne, d'une part, et dans un regard de sagesse, d'autre part ? Comment dépasser un regard psychologique à ce sujet ?
Donc, c'est intéressant ça, mais il faut bien voir que l'homosexualité est une attaque directe contre la nature. En soi, je ne parle pas un cas particulier de telle ou telle personne. J'ai connu beaucoup de gens, qui étaient pris par ça, et qui étaient d'autre part des hommes extraordinaires. Donc, des hommes extraordinaires, c'est-à-dire des hommes de très grands artistes, et puis leurs mœurs humaines, en dehors de l'homosexualité, étaient très édifiantes. C'était vraiment des hommes qu'on aurait pu prendre comme modèle. Et il faut... L'homosexualité a toutes les dimensions. On sait très bien que la philosophie de Platon est fondamentalement un plaidoyer d'homosexualité. C'est fait avec beaucoup de nuances et beaucoup d'intelligence. Alors, ça ne se voit pas toujours, mais au fond, c'est quand même assez net. Tout près de la mort, Platon, avant de mourir, dit à son épouse de partir, toutes les femmes de partir, et entre hommes. De très grands problèmes. Au cœur de la philosophie de Platon, il y a l'homosexualité. Et toute, au fond, c'est la philosophie de Platon peut soutenir l'homosexualité. Et alors, je dirais, moi, qu'il y a deux espèces d'homosexualité. Il y a une homosexualité aristocratique, à la manière de Platon. Et puis l'homosexualité, pas du tout à la mode de Platon, qui est tout simplement satisfaction des passions. Et satisfaction des passions sans avoir les inconvénients d'une sexualité débordante qui fait qu'on a des enfants à droite et à gauche et on en est responsable. Tandis que là, il y a l'avantage de ne pas l'avoir. Et donc, on plaide une espèce de pureté d'amitié. On doit être attentif à l'homosexualité. C'est évident, nous. Pour ne pas tomber dedans, premièrement, parce que il faut dire, certaines personnes sont, oui, c'est sûr, la première éducation, ça fait beaucoup, mais ça dépend aussi beaucoup des détails. Vous savez, quand on reçoit les confidences homosexuelles, on s'aperçoit que la plupart du temps, ils sont devenus homosexuels par violence. Ce sont des aînés qui ont corrompu des cadets. Très comme ça, l'homosexualité. Et donc, il y a les deux aspects de l'homosexualité. Il y a l'aspect Platon, je mets Platon parce que c'est comme ça, ça fixe ses idées. Et puis l'homosexualité, tout simplement, pour satisfaire la passion. Et c'est pour nous qui devons aider les personnes qui viennent nous voir et qui sont prises par l'homosexualité, tout de suite, faire attention. C'est deux manières, parce que c'est très différent. L'homosexualité du débordement de la passion en essayant d'avoir toutes les joies sexuelles qu'on puisse avoir sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire une fécondité des enfants. Et l'homosexualité de celui qui veut une vie passionnelle débordante. Vous voyez, au fond, on met homosexualité, un mot qui couvre des positions totalement différentes. Pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, puisque j'ai eu plus mes études, mais de fait, j'ai eu beaucoup de contact avec eux, parce que, tout simplement, en raison de contact. intellectuel. Donc, j'ai très bien remarqué et cette diversité de l'homosexualité, et il ne faut surtout pas confondre. Et c'est évident qu'on doit les traiter très différemment. Ça ne se guérit pas de la même façon. Mais c'est, il faut reconnaître que c'est très difficile sans le secours de Dieu, sans le secours du Christ, d'en sortir. Ça prend vraiment comme quelque chose de naturel. Et presque toujours diront, mais c'est dans ma nature. Je suis fait comme ça. Ce qui est faux, il n'y a pas une nature spéciale de l'homme ordonnée à ça. L'homosexualité provient du fait que la finalité disparaît. C'est sûr. On met une croix sur la finalité. La finalité de la sexualité, c'est normalement l'enfant, la fécondité. Et la sexualité rectifiée est une finalité, c'est une sexualité qui respecte pleinement la finalité. Et elle ne peut se corriger qu'en respectant sa finalité. C'est donc par la finalité seulement que je peux m'approcher. Et leur faire comprendre un discours qu'ils ne refuseront pas automatiquement dès le point de départ. En disant c'est une nouvelle nature, vous ne l'êtes pas, donc vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme si on avait quelque chose de spécial et que les autres n'ont pas, et par le fait même tous ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas comprendre. Alors, c'est beaucoup plus de regarder philosophiquement pourquoi la sexualité homosexuelle, l'homosexualité, arrive dans toutes les périodes de décadence. C'est un signe. Quand la décadence est généralisée, comme maintenant, dans tous les pays, sous des formes différentes, vous retrouvez un regain de sexualité, d'homosexualité. Ça, c'est un fait. C'est le signe, le baromètre d'une culture, d'une fin de culture, vous voyez, d'une culture qui n'a plus assez de force pour maintenir l'homme debout, pour maintenir la femme debout. Il y a un repliement sur soi, un repliement non pas de charité, mais un repliement justement d'égoïsme. C'est un égoïsme à deux, qui, parce qu'il est à deux, essaie de se justifier à deux. Les homosexuels essaient tout le temps, moralement, de se justifier. Ils prennent toutes les possibilités de se justifier. Et quand vous leur dites tout simplement, c'est pas la peine de vouloir se justifier, regardons la chose en elle-même, pourquoi ? Peut arriver à découvrir que c'est vraiment la finalité qu'on a rejetée complètement. Et on veut se regarder soi-même comme ceux qui finalisent et qui donc nous rend propriétaires de ce qui peut nous procurer le plus de jouissance sexuelle, le plus de joie possible. Sur un ronron qui fait soi-même, on s'enferme. Donc, je crois que il y a à rectifier cette perspective de la finalité. Mais vous voyez comme c'est difficile, hein ? Profondément, c'est ça. C'est de montrer que la finalité, elle ne peut pas être en nous-mêmes. La finalité, c'est aimer quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui est plus que nous. Aimer en se repliant sur soi et on se replie à deux. Et se repliant à deux, ça fait que c'est beaucoup plus fort. On ne veut pas parler d'une rectification beaucoup plus profonde qui vient de la fin. Je crois que c'est la première des choses qu'on doit faire. Pour nous, au point de vue philosophique, hein, au point de vue philosophique, et au point de vue aider ces gens-là. Quand vous avez affaire à des homosexuels qui sont des braves gens, hein, de très braves gens, qui sont tombés dans l'homosexualité, à cause de tel ou tel événement dans leur vie, vous pouvez les rattraper par là, leur montrant qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils n'ont pas voulu regarder en face, ce pourquoi ils existent, leur finalité propre. Et dans le monde d'aujourd'hui, étant donné que c'est la finalité qui est le plus enfouie, l'homosexualité augmente. Ben, c'est sûr. Et puis, on a l'impression que l'homosexualité donne un sens d'une certaine liberté. On est libre. On devient la référence à toutes nos activités. Alors, redonner le sens de la véritable sexualité, le sens de la fécondité. Parce qu'au fond, l'homosexualité est contre la fécondité. Ça, c'est quelque chose qui peut, d'une façon assez profonde, donner une arme très forte, redonner le sens de la finalité. Et en redonnant le sens de la finalité, on redresse fondamentalement un mot homosexuel. On ne peut pas donner d'exemple puisque on doit se taire, mais au fond, j'ai vu des choses merveilleuses, presque miraculeuses. Retrouver le sens de la finalité, c'est pas commode. Je sais très bien que c'est pas commode, et dans un monde comme le nôtre, c'est pas commode du tout. Mais je crois que c'est le grand remède. Retrouver le sens. Donc, retrouver le sens de la finalité dans une véritable amitié. C'est pas la morale qui vous rendra fort pour lutter contre l'homosexualité. Tu dois faire ça. Ça, c'est pour Kant. Et ça ne tient pas devant la passion. Sûr. Vous êtes conscient quand il n'y a pas de passion. Et dès que la passion s'y mêle, alors à ce moment-là, vous êtes heureux. Alors, il faut redécouvrir un vrai sens de la finalité. Et redécouvrir que l'homosexualité est née dans un, dans une erreur, dans un faux sens de la finalité. Et c'est redécouvrir la vraie finalité de l'homme, ce pourquoi il est fait. On peut trouver la force de lutter contre ce que représente la sexualité. Je crois qu'il y a deux choses qui sont tout à fait différentes, parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter. C'est comment un chrétien doit-il réagir devant une loi comme ça ? Une loi qui n'est pas juste. Puisque c'est une loi qui vous libère à l'égard du mal. Et qui veut vous libérer complètement à l'égard du mal, en mettant tous ceux qui peuvent vous aider doivent accepter qu'on puisse les condamner à la prison, à une peine. Et on rend libre en vous ficelant. C'est terrible, moi, ça. C'est une dégradation complète d'un pays. Je crois que c'est le moyen le plus efficace pour dégrader complètement un pays.
Mon père, il y a une petite question sous forme d'un témoignage qu'un frère pose. La loi sur l'homosexualité, sur l'homophobie condamne implicitement la foi chrétienne. Récemment, une polémique s'est déclenchée contre un fonctionnaire de l'Union européenne qui avait osé dire que l'homosexualité est un péché. Ce fonctionnaire a été sanctionné en perdant son poste. Ces lois de péché et de mort qui se votent en Europe ne sont-elles pas indirectement dirigées contre l'Église et la foi chrétienne ?
C'est sûr, puisque c'est dirigé contre la nature. C'est le démon, c'est pour ça que je vous dis, c'est le démon. C'est trop intelligent pour venir de l'homme. Ça vient du démon. C'est la jalousie terrible du démon vis-à-vis de l'homme. Et cette jalousie attaque l'homme dans un point, la femme, dans un point sensible, en mettant la possibilité de jouir de son corps librement et de regarder le corps comme un instrument de jouissance et non pas comme un instrument de devoir, d'amour, de véritable amour. Il y a toute une philosophie du corps humain qui est là en cause, ça c'est sûr. Cette philosophie du... Je prends tout de suite la finalité, c'est la finalité du corps. Pourquoi notre corps ? Pourquoi Dieu nous a créés dans un corps ? Pourquoi Dieu qui nous a donné un esprit qui est spirituel, qui a des exigences spirituelles, nous a fourrés dans un corps ? Pourquoi Dieu a fait ça ? Cette chose extraordinaire de l'amour de Dieu. Nous arrivons à la détourner et à nous poser la question, dis-moi quand même, Dieu nous traite comme des enfants. on disait à l'enfant, attention, attention, ne sois, tu vois, autrement te dérégler et tu ne pourras plus te passer de la passion. Bon, alors l'enfant, l'homme qui grandit n'est plus un enfant, donc il doit être maître de son corps. Maître de son corps et qu'il peut faire de son corps ce qu'il veut. Alors vous comprenez que là, il y a toute une vision philosophique. Est-ce que nous avons une finalité ou pas ? Donc toujours, toujours la finalité. C'est, je crois, là, le grand péché collectif, c'est quoi ? On ne parle plus de finalité. Au sens profond. Alors, le corps, il nous est toujours présent, alors, qui nous permet de nous détendre, qui nous permet de jouir, qui nous permet de... Pourquoi pas ? C'est comme un bouquet. Ce serait bien bête d'être sévère, d'apprendre là-dessus. Bon, oui. C'est ça le chrétien pour les gens. Pour beaucoup de gens, ils sont sévères vis-à-vis de leur corps. Ils essaient de devenir vertueux, chaste et vertueux, alors, avec toutes les peines possibles. C'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, un grand témoignage du chrétien, c'est de montrer qu'il est toujours joyeux. Et qu'il est plus joyeux que pas tous les autres. C'est un témoignage de notre vie chrétienne. Parce que la vertu rend vertueux, nous rend joyeux. Et ça, je crois que c'est très, très fort. Il y a une réponse. Enfin, on est en train de nous museler. Vous voyez, comme un chien de chasse. Les apôtres sont des chaînes de chasse. Hein, bon, on levait le gibier. Alors, ces chiens, c'est terrible. Ces prédicateurs, c'est effrayant. Ces philosophes, c'est affolant. Bon, on va leur faire taire. Et c'est bien simple. On va leur faire peur. Si vous parlez, prison. Ce serait amusant si tous les chrétiens se mutaient, mais quand même, on doit appeler les choses par leur nom. Quand on est en face d'un poison, on n'a pas le droit de dire à ses frères ou à ses amis, ce poison ne vous inquiète pas. C'est le médecin qui dit ça, c'est le pharmacien qui dit ça. Mais c'est pas vrai du tout. Il faut se libérer de tout ça. Une grande attaque contre toute espèce de mesure. Et nous devons voir comment nous devons lutter. Alors là, la grosse question, la grande question, comment nous devons lutter contre une loi comme celle-là, que nous ne pouvons pas accepter. Pas le dire. On ne le dit pas. Tu vois, l'État, en faisant des choses comme ça, s'avilit. Il perd sa dignité. Il s'en aperçoit pas, mais il perd sa dignité. Il devient considérer l'homme comme un pauvre type. Il faut tout lui dicter. Il faut tout lui dicter par une voix de gendarme. Lui fait peur. Alors, ça va sûrement amener des cas très particuliers et des révoltes très spéciales. Et nous devons voir, nous, comment nous pouvons faire ça avec le plus astuce possible. Mettez toute votre astuce pour rouler ces gens. observe, je ne prendrai jamais. Ouais. Et enfin, beaucoup mieux. On montre que fondamentalement, on ne peut pas vivre sur le mensonge. Ah, tout le monde est d'accord, on ne peut pas vivre sur le mensonge. On n'a pas encore mis une loi qu'il n'y a plus de vérité, qu'on peut mentir autant qu'on veut. Bon. Alors. Et dès que vous tirez quelque chose comme ça, vous distinguez le bien et le mal. Alors que la loi voudrait ne plus distinguer entre le bien et le mal, l'homme et la mesure. Alors on peut lutter là-dessus. Vous voyez, on dépasse la loi. Et ils ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont positivistes, alors ils sont très, très limités dans leur regard. Et on insiste davantage sur les choses fondamentales. Et là, il y a une espèce de conséquence nécessaire. L'homme a besoin de garder sa liberté d'amour. L'homme a besoin de maintenir la grandeur de ce que c'est que l'amitié. Toutes les choses positives qui font que l'homme accepte Dieu. Et on laisse tomber. On ne va pas attaquer directement, parce qu'on sait qu'il y a la prison derrière. C'est pas la peine. Ou bien alors, il faudrait être tous prisonniers en même temps. Alors là, ce serait plus cocasse, ça. Pauvre prison, alors, elle serait débordée, elle n'aurait plus de place. Alors, l'État se ridiculiserait de cette façon-là, vis-à-vis de tous les autres États. Et ça, c'est beaucoup plus audacieux. Je ne sais pas, faire une chose comme ça, c'est très audacieux, c'est très astucieux. À part que des jeunes, on les emballerait à faire des choses comme ça. Et il ne demanderait pas mieux. Et il tournerait la loi comme ça, ridicule. Quand il demande quelque chose de faux, il ne faut pas l'attaquer par rapport à la vérité, c'est beaucoup trop sérieux, le ridicule. Parce qu'ils mettent sur la tête de l'homme un chapeau qu'il ne va pas. Si on nous empêche de porter l'habit religieux, ce qui est très possible, ça peut arriver très vite, nous empêcher d'avoir l'habit religieux, bon. Et qu'on sortirait tous en habit de clown. On a le droit. On a le droit. On serait tous les clowns du bon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Je suppose que le bon Dieu demande dans des réactions, quand on est, vous voyez, devant des peines comme ça où on risque de nous attraper pour des choses complètement fausses, on a le droit quand même de garder une certaine liberté de penser et de parole. Et si on ne peut pas, alors à ce moment-là, on joue au ridicule. Mais astucieux. Et les Français sont très sensibles pour ça. Du reste, l'homme est très sensible à ça, dans tous les pays. Mais le ridicule de chaque pays est différent.